Ma chère Diana Filipova, il neigeait sur Paris ce 24 décembre 1993 lorsque vous êtes arrivée en France. Tout était illuminé, vous souvenez-vous. Née à Moscou, 7 ans plus tôt, d'une mère russe et d'un père russe d'origine grecque, vous laissez derrière vous un pays gagné par la violence d'un libéralisme débridé et la loi du plus fort. En s'effondrant, l'URSS emporte dans son naufrage ce qui restait des structures de l'État. Majestueuse, Moscou est devenue crapuleuse. Physicien, vos parents ont obtenu chacun un poste d'étudiant-chercheur à Nancy. Ils pensent rester 6 mois. Ils ne repartiront pas, vous non plus. De votre enfance moscovite reste le souvenir des leçons de piano, d'une datcha à la campagne, des spectacles du Bolchoï. L'amour de la musique du chanteur, acteur et poète Vladimir Vysotsky et les romans de Dostoïevski.
À la maison, c'était un peu Dieu, quoi, Dostoïevski.
Bon élève, vous avez vite fait de rattraper votre retard en français. Bac en poche, vous entrez en prépa littérature à Henri IV. Vous échouez à Normale, vous vous consolez à Sciences Po et HEC. Essayiste, romancière, spécialiste de l'économie collaborative, vous passez par le ministère de l'économie et des finances. Résolument engagée à gauche, au sein du mouvement Place Publique, vous êtes aussi conseillère d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris.
Je suis passionnée par cette ville, je resterai ici pour en faire une ville encore plus sociale, plus écologique.
La Russie, peu à peu, s'est effacée comme un paysage derrière la fenêtre d'un train. Mais elle se rappelle à vous, impérieuse, impérialiste et cynique sous les traits de Vladimir Poutine. Tchétchénie, Géorgie, Ukraine, le pire est toujours à venir. Je suis née dans un pays criminel, pensez-vous. La haine de soi vous gagne, votre identité russe est désormais votre identité malheureuse. Mais vous vous reprenez pleine d'espoir. On peut changer le sort d'un pays. Peut-être, chère Diana, mais en combien de temps ?
Alors Diana Filipova, cette identité russe, cette identité malheureuse, comment fait-on pour l'effacer, pour éradiquer ses origines, pour justement effacer cette russéité, en quelque sorte, très concrètement, ça passe par quoi ?
Déjà, c'est une identité malheureuse parce qu'elle est confrontée à l'autre. C'est toujours ainsi que les choses se passent. On n'est pas malheureux en soi. On découvre l'altérité et on se rend compte de ce qui ne va pas ou de ce qui ne va pas très bien. Tout le monde ne le fait pas très bien. Moi, j'ai été particulièrement habile à devenir autre. Et la France m'y a beaucoup aidée parce que j'ai été très bien accueillie. J'adore la littérature française. La langue française a été un refuge, comme la littérature et la bibliothèque de mes parents l'a été durant mon enfance.
Très concrètement, si vous ne parlez pas russe à vos enfants, par exemple, vous avez refusé de parler russe à vos enfants.
Je n'ai pas refusé, je n'ai pas pu leur parler russe parce que pour moi, la langue de l'émotion, la langue de la transmission, c'est le français. Mmh. C'est vraiment ma langue de travail et c'est la langue dans laquelle, en fait, je suis devenue une femme. Mmh. Donc, je leur parle cette langue-là.
Vous racontez aussi que vous avez gardé votre nom, bien sûr, mais vous auriez pu le franciser. Vous auriez pu choisir Diane Philippe, par exemple, vous l'évoquez. Mais...
Oui, absolument. On m'a proposé ça quand je suis devenue française, mais je voulais garder mon nom. Il y a une question d'orgueil également. On ne va pas se renier non plus à ce point-là. Donc il y a toujours eu ce jeu assez ambigu, j'en parle beaucoup dans ce livre. Il y a toujours une contradiction qui traverse la littérature, l'histoire de ce pays, l'identité. Et bien sûr, elle ne m'a pas évité cette contradiction-là. Donc il y a ce rejet et en même temps, on garde jusqu'au nom.
Quoi. Alors, vous parlez justement de ce rejet. Pourquoi vous infligez ça? Pourquoi vouloir porter le poids de cette histoire qui n'est pas la vôtre? Vous n'avez pas voté Poutine, vous n'êtes pas responsable de la guerre en Ukraine. Pourquoi ce rejet à ce point-là?
Alors, le rejet, c'est un rejet de la politique de ce pays et une énorme tristesse devant ce qu'il est devenu. Et moi, je pense que ce n'est pas, il n'y a pas une prédisposition génétique des Russes à choisir des autocrates et des dictateurs. Je crois que une autre Russie est possible et cette Russie, en fait, elle n'a pas été. Elle aurait pu affleurer dans les années 80, à la fin des années 80, pendant la perestroïka, cette période d'ouverture que mes parents ont vécue, que j'ai vécue quand j'étais toute petite, elle laissait augurer d'autres futurs, d'autres possibilités. Or, elles se sont refermées l'une après l'autre pendant les années 90 et puis à partir du début des années 2000, petit à petit, avec la maîtrise de la presse, etc. Vous connaissez cette histoire et on en est là où on en est. Et cela va prendre des générations pour que la Russie retrouve déjà une position ne serait-ce que neutre dans le regard des autres pays.
Parce que sur la Russie, même, vous dites quand même, qu'y a-t-il à sauver ? Qu'y a-t-il à sauver aujourd'hui l'identité russe ? Vous êtes, voilà, ce mot pour vous est synonyme de tourment, je vous cite. Et en même temps, c'est paradoxal, vous le disiez, parce que c'est vrai qu'il y a la littérature, vous dites aussi que Moscou vous manque.
Mais je réponds.
Vous êtes traversé par ces contradictions.
Il y a beaucoup de choses à sauver, et à commencer par la littérature russe et l'art russe, qui ont toujours été le refuge de la rébellion et le refuge de l'insoumission politique. Mmh. Le problème, c'est que cette insoumission s'est cantonnée dans le monde des arts et des lettres. Elle a complètement déserté la société civile qui, en quelque sorte, s'est un peu déchargée de sa responsabilité de faire de la politique sur ces poètes qu'on va lire, qu'on va s'échanger, etc.
Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est justement ces poètes, ces écrivains, ces comédiens, ces metteurs en scène. Eh bien, aujourd'hui, votre titre de l'inconvénient d'être russe, il a une résonance particulière parce que ces personnes-là, les artistes qui sont en exil aujourd'hui, ont du mal à travailler. Et surtout, même aujourd'hui, par exemple, monter une pièce de Tchekhov, ça devient douteux.
Alors, Serebrennikov y arrive très bien.
Oui, mais justement, même lui a eu des problèmes à Berlin, par exemple, pour monter en fait des choses à Berlin. Ce metteur en scène a eu des problèmes.
C'est difficile. C'est plus difficile dans certains pays que dans d'autres. Je pense que la France sait faire la part des choses entre. Bien sûr. Là, vous touchez un point très important qui est en fait vraiment le thème de mon livre. C'est qu'il y a deux Russies. Il y a une Russie imaginaire, le royaume des lettres, des exilés, etc. Elle a été portée par les immigrés et les exilés, ailleurs qu'en Russie. Elle n'existe pas, en fait, sur un territoire. C'est un rêve, quoi, c'est un fantasme. Et puis, il y a la Russie sur le territoire russe. Et dans n'importe quel pays, il y a ces deux images, en fait. Hein. Mais ils se rencontrent. L'un influence l'autre. Les marges finissent par pénétrer le centre. C'est vraiment ce libre jeu entre l'imaginaire et le réel qui finit par créer une nation. En Russie, à un moment donné, si vous voulez, cette réalité et cette Russie idéale ont pris des chemins complètement divergents.
Et la Russie aujourd'hui, évidemment, la réalité, c'est d'abord la guerre en Ukraine envahie par Vladimir Poutine il y a 18 mois. Est-ce qu'il y a aussi ces conséquences, y compris pour le sort des artistes, des écrivains russes que vous citiez il y a un instant, Jean-Mathieu Pernin. Et la guerre en Ukraine, 18 mois à peine après le début du conflit, elle est déjà enseignée en Russie à l'école, Jean-Mathieu.
Oui, c'est ça, parce que c'est la rentrée. C'est vrai, hein, pour les jeunes russes, c'était d'ailleurs hier. Et sur la liste des fournitures des premières et terminales, et ben, un tout nouveau manuel d'histoire narrant la Russie de 1945 à nos jours. Alors, à noter dans ce manuel un chapitre consacré à l'opération militaire spécial hein, en Ukraine, hein, c'est ainsi le terme toujours, suivi d'un autre sur la Russie, le pays des héros, alors, qui relate les exploits des militaires sur le champ de bataille. Alors ouvrons avec objectivité cet ouvrage et que trouve-t-on à l'intérieur ? Eh bien par exemple que Vladimir Poutine carrément a empêché la disparition de la civilisation en envoyant ses chars et ses missiles sur l'Ukraine ou que Kiev élève ses enfants dans l'idéologie nazie. Hein. Donc c'est assez clair et synthétique. Le journal Le Monde a également repéré que le départ des entreprises étrangères est vu dans ce manuel comme une chance. On peut y lire, je cite, « Vous avez devant vous des perspectives fantastiques de carrière pour lancer vos propres start-up. La Russie est une terre d'opportunités. » Mais pas toujours de vérité, on le sait maintenant. Alors Diana Filipova, quel impact d'après vous cette propagande peut avoir sur les plus jeunes ?
C'est un très grand point d'interrogation. Qu'est-ce qui reste en fait de cette propagande, de cette contre-vérité dans la tête des Russes ? Alors l'URSS nous a enseigné quand même que c'est pas parce que les choses étaient matraquées tous les jours que les gens y croyaient. C'est-à-dire que la chute de l'URSS est justement due au fait que la plus grande partie de la population ne voulait plus croire à ces salades, en fait, en quelque sorte. J'ai bien peur que les choses soient un tout petit peu plus compliquées aujourd'hui, parce que cela fait vraiment 20 ans que le régime fait en sorte d'éliminer tous les espaces de liberté qui existaient. Et c'est terrible de le dire, dans une plus large mesure dans l'Union soviétique qui ne l'existe aujourd'hui. Et puis, il y a une rhétorique extrêmement efficace, extrêmement violente sur l'ennemi de l'intérieur, l'ennemi de l'extérieur, sur le fait qu'il y a une influence étrangère qui veut mettre à bas la Russie, qui a été particulièrement bien menée et qui a fleuri sur le terreau de l'humiliation des années 90, thème qui a été largement repris sous toutes ses coutures depuis 20
utilisé,
ans.
Utilisé par Vladimir Poutine depuis une vingtaine d'années. Diana Filipova, nous avons une archive à vous montrer. C'est un grand écrivain qui est reparti dans un livre, lui, en quête de ses origines russes.
Oui, on parlait de littérature un peu plus tôt. Alors je voudrais vous montrer quelques images d'un auteur français qui a publié en 2007 un roman russe, c'est le titre de son livre qui tresse trois récits, une plongée dans ses origines familiales absolument capitale pour Emmanuel Carrère. On l'écoute.
Le fil conducteur, c'est cette espèce de recherche autour de mon grand-père, des origines russes, de la langue russe que je me suis peu à peu, même si pas complètement, réappropriée. Et au fond, ça essaye de raconter quelque chose sur mon histoire familiale, sur ma mère, sur ma propre vie. Vous savez, c'était un truc que disait Lawrence Thieu. Lawrence, il disait que les seuls livres qui valent la peine sont les livres dont l'auteur serait mort s'il ne les avait pas écrits. Je ne crois pas à une définition aussi radicale. Je crois qu'il y a un tas de livres qui valent la peine et qui ne répondent pas à ce critère-là. Mais en l'occurrence, pour moi, c'était ça. Il y avait quelque chose de vital, une espèce de question de vie ou de mort à faire ce livre, oui.
Alors ce livre, Diana Filipova, vous l'avez lu. Et en 2016, vous décidez d'écrire directement à Emmanuel Carrère en étant sûr qu'il ne vous lirait pas. Vous lui envoyez un mail dans lequel vous lui dites directement, je vous cite, « Vous luttez contre l'exil et la séparation d'avec ce qui est irrémédiablement cousu dans vos entrailles. Moi, je fais tout le contraire. » Comment vous comprenez sa démarche, sa volonté viscérale, vitale, comme il le dit, de renouer avec ses racines russes? Est-ce que vous respectez ce cheminement inverse?
Plus que je le respecte, un roman russe a été un livre absolument fondamental. Et d'ailleurs, je ne savais absolument pas ce que je lui écrivais, je ne savais absolument pas ce que je faisais, puisque je n'ai pas... c'était comme une espèce de confession dans le vide. Donc j'étais persuadée qu'il ne le lirait jamais. Enfin, j'avais trouvé son mail dans un livre, voilà. Mais... c'était une sorte d'annonce de ce travail que j'allais être forcée de faire et que j'ai commencé à faire sans doute inconsciemment. Et alors Emmanuel Carrère, c'est un immense écrivain, mais je partage avec lui voilà, ce rapport à la Russie, ce rapport à la langue. Et sans doute, la lecture de ce livre-là m'a permis de comprendre un autre chemin qui était le mien, parce qu'on n'a pas du tout la même histoire. Pas la même génération, on n'a pas les mêmes parents. Et c'est, oui, bien sûr, c'est une grande influence pour moi.
Et juste un mot, il vous a répondu?
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous avez dit?
Quelque chose de très sympathique.
D'accord.
Vous voulez pas dire sympathique?
On n'en saura pas plus. Diana Filipova, vous restez avec nous, bien sûr, vous allez voir.